Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public, salle Cortot à Paris pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec l'orchestre de chambre de la critique Daniel Eman, de Marianne, Xavier Le Herpeur, de l'excellente revue 7ème Obsession avec Pierrot, Pierre Murat de Télérama et de Je raconte la fin des films et avec... Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, pour parler ce soir, programme très varié, La fille inconnue, le Tekel, l'Odyssée, Mal de pierre, voyage à travers le cinéma français, à la demande de Daniel Brice de Nice 3, et ma vie de courgette dans le courrier de la semaine, vous n'êtes pas tendre, pour Éternité de Tran Anh Hung, Romain Tourbillon, ces derniers, et d'un ennui total, cela ne raconte rien. Tran Anh Hung a inventé le film qui ne sert à rien. Jean-Jacques Corio d'Aix-en-Provence ajoute « C'est beau, c'est très lisse, c'est profondément ennuyeux ». Adrien Renaudet « Jamais un film n'aura aussi bien porté son nom qu'Éternité ». Après la naissance du 23e enfant, j'ai complètement décroché. La voix off est insupportable, la mièvrerie constante est lassante. Sinon, la maison, les costumes et les bouquets de fleurs sont jolis, nous dit Adrien Renaudet. Olivier Poulain, du Havre, je crois, est bien le seul à trouver qu'Éternité est un film complètement fou, extrêmement fort, et qui prouve qu'un film sublime peut être en couleur, mais il n'a pas aimé dans France de François Ozon, l'alternance couleur noir et blanc, ni la scène téléfilmesque du morceau de violon mal frotté par l'insupportable Pierre Ninet, nous dit donc Olivier Poulain. À propos de Franz, Cathy Marnier de Nogent est bien sévère, je trouve. François Ozon a voulu faire son ruban blanc moins le talent, son jus et gym moins le génie. François Ozon n'a rien à dire, il filme, c'est joli, c'est tout. Et il aime bien se regarder filmer. Daniel Héranval est plus nuancé, il salue dans France l'élégance de la mise en scène, le très bon jeu des acteurs, et une première partie captivante, mais regrette un essoufflement ou une seconde moitié du film qui patine sérieusement. Heureusement, Patrice Pich de Toulouse a adoré France, très beau film qui montre que François Ozon est aussi éclectique dans ces genres de films que constant dans l'exigence, et c'est aussi un grand découvreur d'actrice merveilleuse et subtile, Paula Baer. Et pour finir, Edwin Hatton condamne les propos d'Éric Nehoff comparant l'actrice de France à Tristan Bannon et invitant Pierre Ninet à suivre l'exemple de DSK en lui sautant dessus. Je regrette que personne sur le plateau n'ait réagi à ces propos. C'est vrai que on n'a pas réagi, hein, non ? On n'avait pas réagi. Aucun
non,
n'a réagi.
Non, j'étais pas là.
L'Odyssée, le film biographique de 2 heures que consacre Jérôme Salle au commandant Jacques-Yves Cousteau, incarné ici par Lambert Wilson, avec Audrey Tautou dans le rôle de sa femme, courageuse femme Simone, Pierre Ninet, Benjamin Laverne dans ceux de leur fils. Le film commence en 1948 sur la Côte d'Azur quand Cousteau quitte la Marine nationale, troque la casquette pour le bonnet rouge, achète et affrète la Calypso et sillonne les océans pour filmer les fonds marins. Le monde du silence, je le rappelle quand même, Palme d'Or 56, que certains ont oublié. Le film qui se termine en 79, on peut le dire, Pierre, avec la mort en hydravion de son fils Philippe, montre l'homme d'affaires écolo, le chef de bande, l'amant volage, le mégalomane, dont les tournées mondiales étaient celles d'une rockstar. C'est aussi d'un ennui colossal. C'est bien simple, moi je l'ai vu il y a 3 semaines exactement, et j'ai pratiquement tout oublié. Alors il est vrai que c'est pas une biographie, c'est plutôt une hagiographie. Xavier ?
Je vais reprendre un tout petit peu ton résumé, ça commence par la mort du fils. Hein. Les toutes premières images, c'est Pierre Ninet dans un avion de studio assez mal réalisé.
On ne le comprend qu'à la fin.
On le comprend, mais enfin, il perd de la vitesse, il est en train de plonger, on sait bien qu'il va se passer quelque chose.
C'est un mal terminé.
Après, on a un petit quart d'heure pagnolesque qui n'a strictement aucun intérêt, où on les voit s'ébattre dans la Provence, mettre du vin au frais.
Dans un très bel endroit.
Très bel endroit, c'est très joliment reconstitué, mais gardons les reproches de reconstitution poussiéreuse et Maladie antiquaire pour le film de Nicole Garcia tout à l'heure.
On
peut pas tout reprocher au même film, alors qu'on n'aura rien à dire, ce serait dommage.
Non, c'est méchant.
C'est d'un ennui absolument abyssal, c'est-à-dire qu'on nous refourgue le truc à l'américaine du trauma constitutif, le fils qui meurt, le fils qui ne s'est jamais rapproché du père, le père qui ne s'est jamais rapproché du fils, qu'on s'en fout comme de l'entrante. C'est dialogué comme un mauvais épisode de Sous le soleil ou de Plus belle la vie, c'est-à-dire que c'est des dialogues à l'emporte-pièce qui sont censés tout résumer de la psychologie, des enjeux, des frictions, du rapport au père qui ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on s'en cogne ? Ce serait pas les Cousteaux, on s'en foutrait comme de l'entrante. Sacrifice absolu du personnage de l'épouse joué par Audrey Tautou qui passe son temps à sourire. Ma chérie, j'ai des dettes. Je souris. Ma chérie, le... Oh, regarde un dauphin. Je souris. Ah, on va refaire le bateau. Ah, je souris aussi.
Mais même quand elle apprend qu'il est infidèle,
elle sourit encore. Elle n'a aucune expression, elle n'a aucun dialogue. Elle sourit pour arriver évidemment à la scène bouleversante où son fils est mort sur fond de Beethoven. Alors là, elle donne tout parce qu'elle n'avait rien jusque-là. C'est consternant de sacrifier un personnage comme ça. Alors dans la vraie vie, visiblement, elle était sacrifiée.
Ah oui.
Bah, tant mieux que le cinéma la réhabilite plutôt que de donner à Audrey Tautou un rôle de potiche dans lequel elle est excellente d'ailleurs. Mais c'est pas possible, c'est pas possible.
Non, en plus, c'est pas une potiche, elle ressemble plutôt à un poisson.
Ah bah je te laisse, chacun son truc.
Non mais dans le film.
Cher Eric Neuf, je vous laisse, vous invitez de mon propos. Mais c'est carte postale et c'est moche. En plus, ça n'a aucun intérêt avec la technique et les possibilités d'aujourd'hui que les images soient aussi plates, aussi creuses, aussi déjà vues.
Bon.
Mais pourquoi ? À l'Odyssée, oui, mais alors qu'est-ce qu'elle est interminable ?
Daniela ?
Non, moi ce qui m'a beaucoup énervé, c'est que oui, on va vous laisser découvrir les zones d'ombre de ce personnage passionnant. Mais c'est une hagiographie poisseuse. Poissonneuse d'ailleurs.
Poissonnière
en effet. Alors j'ai noté, parce que je me suis aussi beaucoup ennuyée, j'ai noté le nom du chef opérateur, Mathias Boucard.
Boucard.
Voilà, et je trouve qu'il photographie très très bien les baleines. C'est bien photographié. Mathias Boucard a fait le boulot. Voilà.
Et il est bien le seul.
Et alors,
Lambert.
Ah non, alors Lambert, d'abord, il a fait un régime alimentaire considérable.
Ah non, mais le faux accent français de notre meilleur anglophile, possible.
Ah oui, les accents.
Donnez-lui César, allez hop, et puis partons à autre chose.
Et alors, on est noyé, forcément, sous la musique d'Alexandre Desplat, mais c'est une submersion. Non, mais c'est moi, ce qui m'a vraiment un peu dégoûté, c'est ça. C'est le côté totalement géographique, sous couvert de « on va vous révéler ces zones d'ombre ».
Jean-Marc ?
C'est difficile de répéter ce qui a déjà été dit.
On va pas y passer la soirée. Voilà. Hein, franchement.
Non, mais moi, exactement comme Daniel, j'étais intéressé pendant les 40 premières minutes parce qu'il y a une dimension. On se dit, tiens, biopic critique, c'est curieux. On le voit en train de déverser des ordures dans la mer. On le voit accepter de sponsoriser ses voyages pour faire des recherches de pétrolières dans la Méditerranée. Donc on se dit, c'est plutôt intéressant. Mais effectivement, les choses qui font très très mal sont malgré tout cachées, notamment à la fin de sa vie, c'est la violence de la relation avec son autre fils, tout ça est totalement esquivé. Et le problème de cette dimension critique, c'est que du coup, la dimension de sainteté qu'il y a toujours dans les biopics, elle est transférée sur le personnage du fils, joué par Pierre Niney, qui lui est exemplaire tout le temps. Mmh. Et dans les 20 dernières minutes, où il y a une espèce de conversion qui est totalement décrétée scénaristiquement de Lambert Wilson à la cause écologique de son fils, où tout à coup, on lui apporte une méduse, il l'embrasse, il adore la nature, il adore les poissons. C'est totalement raté et totalement téléphoné.
Pierrot.
Non, mais vous avez tout dit, donc je vais être très, vraiment très bref. Mais c'est vrai que le pauvre Lambert Wilson, qui est quand même assez ridicule, parce que c'est le seul, un des rares acteurs bilingues qui parle un anglais absolument magnifique, et qu'on force à chaque fois de prendre l'accent de Maurice Chevalier, il doit en avoir marre, parce que c'est pas la première fois, on lui demande ça aux États-Unis, mais on lui demande ça aussi ici. Quant à Audrey Tautou, c'est vrai qu'elle est insignifiante, mais elle est surtout très mauvaise, parce qu'elle elle gouaille un peu comme Arletty, et elle est pas du tout la
Simone Signoret, plutôt, non ?
Mais elle gouaille pas Simone, tandis qu'Arletty... Voilà, et donc le reste, en effet, on peut se demander quand même, parce que je crois que c'est un des plus grands budgets de l'année, au point de vue
pharaonique.
Je signale quand même qu'en première semaine, ça a réuni 367 403 spectateurs. C'est énorme.
C'est un film qui prend l'eau, quoi.
C'est surtout d'un ennui colossal.
Alors,
Et j'étais très triste parce que je m'attendais, quand j'avais vu Le Monde du Silence, tout ça, à voir Jojo le Mérou. Il n'y a pas Jojo le Mérou. Alors là, vraiment, c'est un film où il n'y a pas Jojo le Mérou. Pour moi, ça ne peut pas être constitution.
Bon, l'Odyssée de Jérôme Salles, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Le public est terrorisé. Vous avez le droit de dire que vous aimez, hein.
Oui, oui.
Allez, Mal de Pierre, le nouveau film. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a Starry Nerveux.
Ah non, moi j'aime ça.
Moi aussi. Mal de Pierre, le nouveau film de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Axel Brendemühl, Louis Garrel, Brigitte Rouen, et cette adaptation, la transposition dans le sud de la France du beau roman, bref roman d'ailleurs, de l'italienne Milena Agus, qui se déroulait en Sardaigne. Et là, on est donc dans les années 50, la 203 Peugeot l'atteste d'ailleurs. La jeune Gabrielle, c'est Marion Cotillard, a un problème, elle brûle de désir. Tendance érotomane, un peu comme Daniel, elle est obsédée par ce qu'elle appelle la chose principale. Ses parents la tiennent pour folle et décident, pour calmer la bête, de la donner à un de leurs...
Non mais dis qu'elle est chaude du con et puis c'est bon quoi.
Oh,
ah bah c'est
oh,
ça, mais non mais
Xavier,
ah,
bon, c'est pas possible quand même.
Ah non, tout le monde autour du bar du Dieu.
Xavier,
c'est n'importe quoi. Merde. Commission.
Non donc, mais c'est quand même ça, flûte quoi.
C'est vrai. Passons
à autre chose.
Ses parents donc décident de la donner à un de leurs ouvriers agricoles.
Ah bah vu comme ça, Nicole Garcia ne va pas s'en remettre parce que...
Qui est l'espagnol José, qui est joué par Axel Brendemühl. Mais ça n'arrange. C'est dégueulasse ce que vous faites là. C'est dégueulasse.
Je te fais gagner 4 minutes de circonvolution.
Donc elle est envoyée en cure thermale à la montagne pour soigner ses calculs rénaux. Qu'on appelait alors le mal de pierre. Et là, elle tombe, Gabrielle, folle, amoureuse d'un jeune officier retour d'Indochine qui est blessé, qui joue très bien du piano et qui est très avenant de Louis Garrel. Elle veut tout quitter pour lui, et donc j'arrête donc mon résumé. Je laisse évidemment Pierrot révéler l'épilogue.
Oui.
D'un film qui procède beaucoup par flashback, dont moi j'ai trouvé l'image belle, et Marion Cotillard particulièrement incandescente. Film, il faut quand même le rappeler, pour les historiens du cinéma, qui est en compétition officielle à Cannes, qui a été très, très maltraité par l'ensemble des critiques. Donc je vais commencer par Pierre.
Moi, j'aime bien ce film. Je trouve que c'est le meilleur film de Nicole Garcia depuis Place Vendôme, en tout cas. Et ce que j'aime, c'est surtout la première partie. C'est-à-dire que elle avait rarement filmé avec autant d'âpreté et de cruauté une société fermée sur elle-même, qui emprisonne quelqu'un qui, en effet, n'en peut plus et qu'on considère comme folle parce qu'elle n'a pas sa place dans ce monde. Et je trouve qu'il y a des scènes, comme par exemple lorsque Marion Cotillard... prend le livre que lui a donné l'homme qu'elle désire et
qu'elle
qu'elle embrasse la page de son nom parce qu'il est écrit sur une page, ou lorsqu'elle s'offre au journalier en étant nue à la fenêtre parce que comme une espèce de provocation, je trouve que c'est vraiment vraiment bien ce que fait Nicole Garcia.
Et Cotillard.
Voilà.
Cotillard.
Et après, dans la deuxième partie, qui est naturellement plus romanesque, et la rencontre avec dans le sanatorium que tu as évoqué et tout, et puis tout ce qui se passe après, moi, repose, alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça repose quelque chose que j'aime vraiment bien, c'est l'osmose entre une réalisatrice et une actrice. C'est vraiment, on voit bien qu'elles sont ensemble, qu'elles ont travaillé ensemble, qu'il y a une compréhension entre elles, et Marion Cotillard, que j'aime de plus en plus depuis Jacques Audiard, James Gray et les frères Dardenne, je la trouve là magnifique, mais magnifique, parce que jamais lacrymale, larmoyante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiennes qu'on ne citera pas qui auraient interprété ça avec des larmes au bord des cils ou en pleurant. Et là, elle est d'une intensité et d'une précision.
Qui vaut aussi pour le, je trouve, pour le mari, mari espagnol, Brendemühl.
Brendemühl qui est magnifique.
Qui,
parce que
qui ne fait rien, mais compris dans la douleur.
Mais c'est le personnage, évidemment, le plus romanesque et le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il l'aime vraiment et qu'il est capable de sacrifices qu'on découvre seulement à la fin. Donc c'est un très beau personnage romanesque, mais l'interprétation de Marion Cotillard, qui n'est pas très aimée parce qu'elle a du succès partout, moi je trouve que c'est une des plus grandes comédiennes actuelles, et dans ce film-là, elle est, mais intense et épurée, je la trouve superbe.
Jean-Marc, dont les arocs n'ont pas été très tendres pour ce film.
Non, détrompe-toi, la critique qu'on a publiée là n'était pas du tout négative, en tout cas moins négative que ce que je pense du film. qu'effectivement j'aime pas tellement. Pourtant, Nicole Garcia revient à ce que, à mon sens, elle sait le mieux faire, qui est le portrait de personnage féminin un peu à la dérive. À mon avis, ce qu'elle a fait de plus beau, c'est son premier film avec Nathalie Baye, qui s'appelait Un week-end sur deux. Place Vendôme, comme l'a dit Pierre, c'était effectivement assez beau. Je pense qu'elle a un peu perdu la main là-dessus parce que elle bétonne trop ses films scénaristiquement. Et je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre L'Odyssée et Le Mal de Pierre. Ces deux films à la production et à la direction artistique assez ronflantes et aussi qui ont adopté des techniques de narration issues des séries américaines comme cette convention nouvelle. C'est vrai pour L'Odyssée, c'est vrai pour Le Mal de Pierre, qui consiste à commencer le film par une sorte de flash forward, bon, c'est-à-dire la prémonition de ce qu'on verra beaucoup plus tard et qui est un climax. On interrompt brutalement et on raconte tout depuis le début. Je trouve que c'est une convention très fastidieuse et surtout ça devient un peu un procédé, un tic qui là en l'occurrence à mon avis n'apporte pas grand chose sinon une sorte de dopage scénaristique pas très intéressant.
En même temps c'est un flashback classique, tu sais, hein, je veux dire dans la France
c'est
des
une
années
façon
50
très, très
ou 60,
moderne et
le...
très selon la convention d'aujourd'hui, de faire un flashback classique, disons.
Daniel.
Alors c'est très curieux, voilà, je trouve que cette histoire est formidable. Je trouve que cette d'entrée dans l'esprit et dans le corps à la fois d'une femme...
Lisez-le si vous pouvez, c'est un très beau roman.
Et qui dérive vers le fantastique, et qu'on dérive avec elle vers le fantastique, j'ai adoré cette histoire. Et j'ai été absolument submergée de surprise de ne pas être émue une seconde. J'attendais l'émotion, je me disais, mais attends, ce que tu es en train de voir là, c'est bouleversant. Et je regardais ça, je me disais, bon, elle est bien Marion Cotillard, ouais, ah, dit-on, ah, sacré boulot, hein. Je disais, mais sois émue. Et je n'ai pas été émue une seconde. Et pour moi, c'est resté un mystère. J'ai trouvé ça extrêmement
même
bien
fait.
Même
les scènes à la montagne, ça t'a pas émue du tout?
Mais non. Et non. Je te dis, j'ai été surprise de ne pas l'être parce que je trouve l'histoire formidable. Et justement, je trouve le traitement fantastique qu'en fait Nicole Garcia très intéressant. J'ai trouvé tout ça extrêmement intéressant et pas émouvant. Et je le regrette.
Xavier.
C'est Voyage au pays du Formol, quand même. Moi, il y a un moment où j'y arrive pas, quoi. C'est pas possible. On voit le travail de tout le monde. On a l'impression d'entendre une voix off qui nous dit, regardez comme mon chef d'écho a bien travaillé. Alors, il y a la Peugeot 203, il y a le Paris Match, il y a la table en formica, il y a la petite gourde en plastique pour aller au pique-nique, tout ça dans
mais
la première scène.
C'est du classique.
Mais on s'en fout, Pierre, elle filme le superflu, elle est jamais dans l'essentiel. Excuse-moi. C'est autre chose qu'il faut filmer. J'en ai rien à foutre qu'elle ait dévalisé le musée d'à côté. Il faut qu'elle filme le sentiment et Daniel a raison. On n'est jamais ému.
Mais vous n'êtes jamais ému. Moi, j'ai été ému.
Mais attendez, mais laisse-moi dire que je n'ai pas été ému. Moi, c'est le principe du jeu. T'as pas raison parce que t'as aimé ce truc qui est poussiéreux comme c'est pas possible.
Mais c'est pas poussiéreux. Pourquoi est-ce poussiéreux?
Marion Cotillard a 17 ans, effectivement, très libidineuse, en train de faire un remake de 9 semaines et demie derrière les persiennes un soir, avec Brigitte Rouault en bas qui l'insulte. C'est pas possible. Il y a un moment, on en revient pas.
C'est Tristana, c'est pas 9 semaines et demie. Si tu veux faire une
référence. Les persiennes à poil, c'est plutôt Kim Basinger.
Non, c'est Tristana.
Non, chacun ses références.
Bah oui, chacun ses références. Et malheureusement, on pense hélas plus à 9 semaines et demie qu'à Buñuel. Mais c'est quand même un film qui est constamment rattrapé par son souci de bien faire, d'antiquaire, de précision, de reconstitution historique. Mais filme ce qu'il faut vraiment filmer. Daniel a raison, elle n'est jamais dedans. Elle est toujours à côté, elle est toujours dans l'apprêté, elle est toujours dans le cotonneux, elle est toujours comme ça dans une espèce de truc. Oui, c'est du formol, quoi. C'est du cinéma qui oublie de filmer. C'est bizarre, elle devrait filmer un corps malmené, un corps mal aimé, et elle ne le filme pas, elle en a peur. La seule chose qu'elle réussit... Mais non, mais attendez, filmer le corps, c'est pas simplement foutre à poil sa comédienne. Sinon, alors je veux dire, Marc Dorcel sera un immense cinéaste. Donc, faut un petit peu transcender le principe. Comme d'habitude, le seul personnage qu'elle réussit, c'est l'homme. Je suis désolé, c'est ce qu'elle tourne le mieux, et ça, je lui reconnais. En plus, j'aime bien Nicole Garcia. L'homme malhabile, l'homme, effectivement, à la virilité déchéante, c'est ce personnage d'Espagnol qui est bouleversé en lui, parce que justement... Elle l'intéresse presque pas, et donc du coup, il a le droit d'exister dans le cadre. Et il est bouleversant.
Mais il l'intéresse beaucoup.
Mais il est bouleversant parce qu'il ne montre rien.
Mais il ne montre rien. Mais pour le reste, une espèce de fausse montagne magique, là, mais au secours.
Mal de Pierre, le film de Nicole Garcia.
Non, ne fais pas des grands gestes, on est à la radio, Pierre, exprime-toi.
Je me suis exprimé, quand je m'exprime, tu m'interromps en disant que j'ai pas le droit de t'interrompre.
C'est toi qui m'interromps.
Alors,
attends, et je te rappelle, je n'ai rien dit pendant que tu débattais. Donc, excuse-moi.
À Cannes, où ils espéraient une troisième palme, il y avait aussi La fille inconnue des frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Adèle Haenel, Olivier Bonneau, Jérémy Régnier, Olivier Gourmet et Adèle Haenel. C'est Ginny, une généraliste qui bosse dans un cabinet médical d'un faubourg de Liège. Un soir, après l'heure de fermeture, on sonne à la porte. Ginny ne répond pas, au prétexte, dit-elle à son stagiaire, qu'il ne faut pas laisser les patientes causer une fatigue qui t'empêcherait de bien les soigner. Le lendemain, les flics lui apprennent qu'une jeune Africaine est retrouvée morte, le crâne fracassé, sur les bords de la Meuse, juste en face du dispensaire. Une Africaine dont la caméra de surveillance a saisi le visage. Au moment où elle sonnait à la porte, Ginny, évidemment rongée par la culpabilité, va mener une enquête, qui d'ailleurs n'est pas du tout crédible, petite parenthèse, hein, pour connaître l'identité de cette femme. C'est un peu répétitif pour le coup, un peu moralisateur. Moi, j'aime beaucoup les Dardennes. Là, j'ai été, déçu. Jean-Marc, je sais, l'a beaucoup aimé.
Ouais, moi j'aime beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que c'est un film un peu à combustion lente. C'est-à-dire que quand on le voit...
Très lente.
Oui, très lente, mais c'est pas mal non plus. Quand on le voit, on se dit c'est plutôt moins lyrique, il y a moins d'effet de suspense, c'est moins captivant que les grands films, beaucoup plus efficaces dans la conduite du récit des Dardennes. Et en même temps, je trouve que le film dépose quelque chose d'assez profond. Moi, il m'a travaillé, j'ai fini par aller le revoir. Et je trouve quand même très beau cette espèce de variation sur le mythe d'Antigone. Et ce principe de désobéissance du personnage d'Alénel qui fait systématiquement ce qu'on lui dit de pas faire, forcément, c'est répétitif. Mais c'est répétitif comme Antigone. C'est-à-dire qu'elle fait tout le temps ce qu'elle n'a pas le droit de faire dans le but de donner une sépulture à quelqu'un. Et je trouve qu'il y a vraiment une vision assez forte dans le monde, sur le monde contemporain, sur la question de qu'est-ce qu'on fait d'un personnage qui demande le refuge, et sur la question des frontières, sur la question des flux migratoires. Le film ramène cette problématique
à une... Pardon, mais c'est pas très original, hein.
Ce qui est original, c'est de le ramener à une dimension aussi individuelle, aussi quotidienne. Enfin, c'est vraiment la crise européenne migratoire au niveau d'un tout petit quartier et d'un choix individuel. Et ça, je trouve que ce travail de réduction là, il est vraiment très bien fait, assez beau. Et en plus, bon, Adèle Haenel est vraiment une très bonne actrice, et tout le travail qui est fait de restitution des gestes quotidiens du médecin, du soin, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la manière dont les Dardennes, avec de moins en moins d'effets de cinéma, c'est-à-dire qu'un temps ils avaient vraiment des figures très repérables, suivre les personnages, caméra à l'épaule, de dos, c'est vraiment un filmage de plus en plus dépouillé, de plus en plus rêche, et je trouve que ça ne nuit pas à l'impact et à la force de leur cinéma.
Daniel ?
Je sais pas, je comprends très bien ce que dit Jean-Marc, et j'aime assez le film, son austérité, sa répétitivité.
Son gris.
Oui, voilà, ce faux polar. Je trouve, j'ai été quand même un tout petit peu gênée par la jeunesse, la trop grande jeunesse d'Adèle Haenel. Je trouvais qu'elle n'était pas vraiment ce médecin-là. Et donc, les gestes que les Dardennes lui font faire pour prouver, mais si, vous voyez bien, elle ausculte ce vieux monsieur, et elle voit bien qu'il a de l'emphysème. Bon, on a pour un bon moment de savoir qu'il a de l'emphysème. Je veux dire, ils sont eux-mêmes forcés de la forcer à être ce qu'ils veulent. Et je pensais, en la voyant, quand même, aux héroïnes des Dardennes, qui sont totalement bouleversantes, enfin, en revenant évidemment, à Rosetta, Émilie Dequenne, ou à la Déborah François de l'enfant, enfin, je veux dire, ces héroïnes du quotidien, et même Marion Cotillard dans Deux jours, une nuit, enfin, où on est tout de suite de plein pied et avec elle. Et là, j'ai eu du mal à être vraiment avec elle. Mais bon, avec cette austérité et cette espèce de faux polar qui dit en effet beaucoup de choses, c'est quand même plus qu'estimable.
Xavier ?
Moi, je suis un peu comme Daniel et comme Jérôme. J'adore ce que tu dis du film, Jean-Marc, et c'est passionnant, et c'est vrai. Et en même temps, il y a un moment où il faut demander au film d'être un peu plus dans l'incarnation et de proposer quelque chose qui ne soit pas uniquement de la théorie, même si je trouve, encore une fois, que la tienne est passionnante, et je trouve que le film ne fonctionne pas. Il y a plein d'éléments qui me passionnent, la proposition, le sujet de départ, le point de départ, et même Adèle Haenel, qui est effectivement une erreur de casting, mais une erreur de casting passionnante. J'étais vraiment prêt à aimer le film, et je l'ai revu, comme Jean-Marc, à Paris, pour essayer de comprendre pourquoi je lui résistais à ce point.
Parce qu'on l'avait vu sur grand écran à Cannes, où je trouvais précisément que les défauts étaient plus voyants.
Plus voyants, voilà. On l'a revu sur des écrans plus petits, avec un petit quart d'heure, me semble-t-il, de moins. Et ça ne fonctionne malheureusement toujours pas. Et c'est passionnant, parce que quand on aime des cinéastes, ou quand on aime un cinéaste en général, et qu'on voit un film qui nous échappe, on voit aussi des choses de leur travail, et que jusque-là, on n'avait peut-être pas repéré de cette manière-là. Il y a un principe de réalisme qui ne fonctionne pas dans ce film-là. Effectivement, les gestes qu'il prête à Delenel, qui a un jeu très éthéré et qui, du coup, a du mal à être dans le concret, dans le quotidien, et qui, à la fin, ça va même à l'encontre du film, parce que c'est ce que tu disais très justement, ça devient moralisateur. Cette manière de ne jamais rentrer dans le film fait qu'une fois qu'on va découvrir les véritables auteurs du drame, on a l'impression qu'elle leur fait la morale, alors qu'elle-même a traversé quelque chose qu'on ne ressent pas. Ce principe du réel qui fait rentrer toutes les réalités du monde, et Jean-Marc l'a très bien dit, il y a un moment où ça se voit, j'ai un moment où on voit un petit peu le poteau indicateur, l'intégration, la misère, le social, le truc, on va emprunter chaque chemin. Là, j'ai vu le squelette, il a manqué cette grâce extraordinaire qu'ils avaient trouvée, à mon avis, à leur sommet, le film avec Marion Cotillard, qui est extraordinaire dans ce film-là, et qui était un principe très très posé de cinéma improbable, et dans lequel ils explosaient complètement, justement, le principe de jour une nuit pour sauver un boulot, 13 personnes pour convaincre, 12 hommes en colère, version sociale, c'était formidable. Et là, ils y échappent. L'enquête policière, il y a un dialogue qui est même dans la bande-annonce, c'est risqué.
Ah oui.
Quand elle lui dit, j'ai mis mes mains, à un moment, j'ai mis mes mains sur tes tempes et j'ai compris que tu mentais. On dirait du arabesque, là. On dirait de la mauvaise, très mauvaise vieille série télé. C'est dommage.
Pierrot.
Je suis un peu comme vous. C'est-à-dire que je trouve le film, évidemment, passionnant tout de même. Je pense que ce qu'ils ont voulu, c'est très risqué, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont pris Adèle Haenel en la rendant, contrairement aux autres héroïne presque antipathique, parce qu'elle se mêle de ce qui n'a presque antipathique.
Oui, dans sa relation avec le stagiaire, par exemple, aussi.
Par exemple,
aussi
avec le stagiaire, avec le flic, elle se mêle un petit peu de ce... Et c'était très hardi et tenu, comme pari, de ne pas la rendre, justement, aussi sympathique que d'habitude. C'est, en même temps, leur film... Moi, je suis pas convaincu totalement par le film, mais c'est en même temps leur film le plus dostoïevskien, parce qu'évidemment que...
Ah, la culpabilité.
La culpabilité,
ça,
voilà, la culpabilité a toujours été au centre, au cœur de leur film, mais là, c'est l'aveu, quoi. C'est-à-dire que c'est l'aveu, et ce qui est peut-être un peu gênant, c'est que si une personne avouait, ce serait très dostoïevskien, il trouverait la paix, etc. Mais là, tout le monde se met à avouer, quoi. C'est-à-dire qu'au bout du troisième et quatrième aveu, et tout le monde, après avoir avoué, se sent très bien.
Je sens que tu approches de la fin de l'épilogue.
Voilà, voilà. Non, se sent très bien. Et donc, voilà, ça fait un petit peu lourd pour du Dardenne, quoi. C'est plus épais que d'habitude, et peut-être que la répétition de ces aveux successifs est un peu lassante.
La fille inconnue des frères Dardenne. Oui, une réaction sur ce film. Nous sommes, je vous le rappelle, Salle Cortot à Paris. Bonsoir, monsieur.
Excusez-moi, je suis invalide. Excusez-moi de m'avoir haché. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Garcin. C'est première déception par rapport aux frères Dardenne. Je trouve que Rosetta et l'enfant... Et ils méritaient leur palme d'or. Par contre, je trouve que ce film-là ne méritait pas du tout la palme d'or.
Merci pour votre intervention. On va aller assez vite avec le Tekel, le nouveau film de Todd Solondz, avec notamment Greta Gerwig, Danny DeVito, Julie Delpy, film plutôt suite de 4 sketchs, où l'on voit notre Tekel qui sort d'une cage de SPR, passé de main en main, de mètre en mètre, sur lesquels Solondz jette un regard que moi, personnellement, contrairement à toi, Daniel, puisque je t'ai lu dans Marianne, j'ai jugé à la limite du supportable. Ça va des bourgeois qui veulent croire que le chien aidera leur jeune fils atteint d'un cancer à une vieille dame aigrie, d'un prof de cinéma raté, à un trisomique qui a été stérilisé par ses parents. Alors évidemment, on a compris, ça c'est surligné, stabilité, que c'est un portrait de l'Amérique... C'est aussi un film qui a reçu, me semble-t-il, le prix du jury à...
Non, alors, curieusement, le prix de la révélation,
la révélation
comme
oui,
si Todd Solondz avait besoin d'être révélé.
De Deauville. Oui. Mais voilà, donc le Tekel de Todd Solondz,
je trouve que effectivement Todd Solondz lui-même dit qu'il fait des comédies désespérées, que si on a envie de rire on peut, et si on n'a pas envie de rire on peut aussi. Eh bien
toi,
j'ai ri. Voilà la magnifique Ellen Burstyn qui est la dernière partie du film. Elle est dans un fauteuil comme ça et elle a son Tekel levé contre elle et sa petite fille lui dit oh c'est bien que t'aies un nouveau chien. Comment il s'appelle? Et elle répond cancer. Ah bon? Pourquoi? Ça me semblait approprié. Et ça vous fait rire? Oui, moi ça me fait rire. Voilà. C'est totalement incorrect, c'est totalement cruel et hilarant.
Il l'appelle Petite Crotte aussi. Ça,
oui, Petite Crotte, voilà. Oui. Et ce teckel est le révélateur de la mouise existentielle de ses maîtres successifs. Et je trouve que Todd Solondz va jusqu'au bout. C'est le champion de l'antiphrase. Il va avoir son film Happiness. Et pour comprendre, et voilà, bon, donc où on adhère ou pas, moi totalement, et le dernier plan que je ne raconterai pas de Teckel m'a fait pleurer, je trouve ça magnifique.
Tu as un penchant coupable aussi, il faut dire, pour,
c'est vrai
pour
que
les chiens en général, Teckel
oui,
compris.
Oui, je suis d'accord, j'ai un syndrome canin assez grave, mais je l'assume,
voilà.
Et Todd Solondz est mon ami.
Xavier. Pas le mien. Moi, je n'adhère décidément pas au cinéma de Todd Solondz, donc on va faire vite. J'ai l'impression, à chaque fois que je prends la parole sur ce cinéaste, de dire les mêmes choses sur son regard oblique, méprisant sur les personnages, aucune empathie.
C'est un regard oblique.
Mais oui, mais tu diras ça et tu diras ça au prochain. Tu m'as dit ça au précédent. Moi, j'ai du mal. Je ne vois pas l'empathie qu'il a. Je ne vois pas la compassion. Je vois le jugement. Je vois le côté très nihiliste. Oui, effectivement, le constat de temps en temps qu'il fait dans le premier sketch, sans doute, qui est le meilleur, qui est d'ailleurs le seul écrit autour du Teckel. Les autres sont vraiment des vieux trucs qu'il a trouvé dans un fond de tiroir.
Des prétextes.
Mais voilà, il fait traverser le Teckel. Mais là, au moins, celui-ci est écrit, mais son regard sur les gens avant même de l'Amérique, sur l'être humain, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas, je trouve pas ça constructif, je trouve que ce qu'il me dit est toujours la même chose, il aime personne, il est misanthrope, il fait du cinéma, ben voilà, c'est bon, très bien, tant mieux pour lui, et tant pis pour moi, mais non, je peux pas.
Pierre ?
Ben, les réalisateurs méchants sont de plus en plus rares, et je trouve que c'est bien qu'on en ait encore quelques-uns, et je trouve que Happiness, par exemple, était beaucoup plus méchant d'une certaine façon que celui-là. C'est en effet un metteur en scène, Todd Solondz, qui n'a aucun espoir en l'humanité souffrante. C'est vrai, ça peut paraître extrêmement dur et déplaisant.
D'accord, mais il n'est pas obligé d'être méprisant.
Il n'est pas méprisant. Pour moi, pas du tout. Il n'est pas. Il n'est pas. Le premier sketch, enfin, plus que sketch, il y a avec Julie Delpy, c'est, alors celui-là est magnifique parce que, à force de répondre aux questions du gamin, enfin, brusquement, ils en arrivent eux-mêmes à ne pas savoir quoi dire et quoi. Bon, il y a ça. Et puis, il y a presque pour ce metteur en scène qui est quand même, dont je viens de dire qu'il est très noir, le personnage de Greta Gerwig, qui est presque sauvée, parce que elle aussi, elle est médiocre, elle peut vivre une vie médiocre. Mais
elle est vétérinaire.
Et il la regarde là avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Alors en plus, pour moi, ce n'est pas le meilleur film de Todd Solondz, je ne le pense pas. Mais il y a vraiment une virulence et du venin. Et quand on voit le nombre de films douceâtres, comme tu disais tout à l'heure, où il y a un peu, où il y a rien, quoi. Là, au moins, il y a ça qui existe.
J'ai du mal à comprendre comment on peut aimer à la fois Mal de Pierre et les Teckels.
Mais je suis très large d'esprit.
Il est large d'esprit.
Là, c'est pas large d'esprit, c'est tiraillé comme Ravaillac. Hein. Jean-Marc.
Moi, j'avais vraiment décroché il y a très longtemps du cinéma de Solondz. Je crois que j'ai vu que Happiness est bien vu dans L'âge ingrat, ses premiers films dans les années 90. Il fait toujours la même chose qu'à l'époque. À l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Et bizarrement, là, je me suis dit qu'il y avait une sorte d'opiniâtreté qui finissait par exister et par produire quelque chose, d'autant plus que ça ne ressemble plus tellement à tout ce qui se fait dans le cinéma indépendant américain. Ça ne ressemble qu'à lui et sa manière de s'entêter à faire quelque chose qui effectivement est un peu étroit, un peu saumâtre, qui tient beaucoup de l'art du dessin satirique, avec quand même une précision de traits que je trouve vraiment assez talentueuse. Je trouve que voilà, ça ne me passionne pas, mais que ça existe.
Le Teckel, Todd Solondz, un mot rapide de Brice de Nice 3. Je rappelle qu'il n'y a pas eu 2. C'est très drôle. Pourquoi ? Parce que le 2...
Cassé.
C'est donc le film de James Hutt, où l'on retrouve Jean Dujardin. Il découvre une bouteille à la mer qui contient l'appel au secours d'un ami Marius, qui est Clovis Cornillac. Sa baraque sur la plage étant détruite. Ouais. Il quitte Nice. Il va d'abord à Osgore, où il retrouve son vieil ennemi, Igor.
Bordeaux d'abord.
Oui, Bordeaux.
Bah oui. Ah
bah ouais. C'est le Tour de France de Brice de Nice.
Tu veux que je raconte dans le détail
Oui, non.
Je veux bien, hein, moi, je veux bien. C'est donc Igor, c'est Bruno Salomon, avec qui il part pour un îlot du côté de Hawaï, où Brice découvre qu'un imposteur sous le nom de Brice de Nice a créé un parc d'attractions Brice de Nice. Toute l'histoire, elle est racontée par un vieux Brice de Nice qui déroule ses souvenirs devant des enfants dans un chalet à la montagne. Alors, cette semaine, j'ai vécu quand même une expérience étrange, puisque le film a été salué par Le Monde d'une pleine page. Il y avait 5 lignes pour Nicole Garcia, Mal de Pierre, mais une pleine page. Et que donc, le film a été considéré comme une désopilante bataille entre Brice et son double, une réussite évidemment. Et surtout, ce qui m'a intrigué à la fin du papier, la grâce de je ne sais quoi pataphysique qui nous rend complices de Brice. Respect.
Total. Total respect. Total respect.
Xavier.
C'est à moi de commencer. Moi, j'avais été épargné par l'attaché de presse qui ne m'avait pas envoyé le carton, donc j'étais content. Je n'avais pas eu à voir Brice 3. Grâce à toi, je l'ai fait. Voilà.
T'es allé en salle.
C'est pour ça que je ne m'excuserai jamais du coup que je t'ai fait tout à l'heure. Je suis allé en salle avec des jeunes. Donc je me suis dit, chouette, j'ai des jeunes. Ils vont me dire quand rire.
Salle remplie ou pas?
Ah, salle aux trois quarts. Oui, ça, je le reconnais. Je me suis dit, ils vont me dire quand est-ce qu'il faut rire. Ils n'ont pas beaucoup ri, donc je n'ai pas su quand est-ce qu'il fallait rire. Ça commence par une séquence d'ouverture interminable où il y a énormément de placements de produits, de crèmes très connues, effectivement, on se laisse tous pour la manger. Il y a des petits bonbons qu'il met dans l'aquarium de son poisson, c'est consternant, donc il y a un produit par seconde. Donc je me suis dit, bon allez, dès que le scénario commence, je m'en vais, et je suis resté jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a jamais eu de scénario, hélas. Mais vraiment, je m'étais dit, bon, dès que ça raconte une histoire, c'est bon, j'aurais compris, je crois que je pourrais imaginer la fin, et malheureusement, j'ai dû rester jusqu'au bout, parce que le scénario, il n'y en a à aucun moment, c'est une succession de sketchs très mous, très vieillots, très repassés, très très passés, qui n'ont qu'une seule vertu, faire des gros plans de Jean Dujardin. Et c'est éprouvant, un acteur aussi bon parfois, et qui là ne fait vraiment pas le job, et qui se sert une espèce d'auto...
Alors sa théorie, tu la connais, c'est qu'il était devenu un acteur trop sérieux, et qu'il avait besoin de retrouver... L'humour de sa jeunesse, la liberté de sa jeunesse.
Bah, il aurait dû prendre des notes parce que sa jeunesse est trop loin, il a tout oublié.
Daniel.
Alors, j'ai trouvé le dispositif où on le voit arriver.
La grammaire, tu veux dire.
La grammaire, oui. Où on voit, c'est Benjamin Button à la fin, quoi, très, 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 très vieux, devant des mômes qui n'arrêtent pas de lui dire mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai ce que tu racontes. Ah, j'ai dit ça, c'est malin. Malheureusement, après, il raconte. Et là, alors, non, mais c'est quand même d'une laideur formidable.
Mais ça, c'est voulu, ça. Hein.
D'une misogynie terrible. Quand les filles arrivent, c'est vraiment des naïades décérébrées, c'est épouvantable. Et je me disais, mais est-ce que ça va m'arracher un sourire à un moment donné? Et je voyais beaucoup d'argent sur l'écran, beaucoup, beaucoup d'argent, qui ne servait pas à grand-chose. Je me disais, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement. Eh ben si, quand même. Alors effectivement, tout à coup, je vois une page dans Le Monde. Effectivement, comme toi, je vois la chute. Le Monde y voit je ne sais quoi de pataphysique. Alors moi, j'irai assez vite et je dirais que j'y vois une réplique de Brice de Nice. T'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien.
Jean-Marc.
Moi, je trouve pas ça nul. Je trouve pas ça très bon non plus. Mais
tu nous rassures.
Jean Dujardin, par exemple, je pense que c'est quand même ce qui fait le mieux, ce genre de pitrerie. Je pense que dans OSS et Brice de Nice,
dans OSS, il était très
bien. Oui,
voilà. Je pense que c'est ce qui fait le mieux et que c'est plutôt un acteur sérieux dans les films d'Éric Rochant, par exemple.
On découvre que c'est un acteur très très limité. On le voit pas chez Alain Cavalier non plus, ni chez Garrel.
Il a fait quand même plusieurs thrillers. Le film d'Éric Rochant, encore une fois, Mobius. On découvre qu'il y a vraiment quelque chose de très étroit dans son jeu. Là, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et que le film est assez malin sur la question de son vieillissement, puisqu'on l'imagine encore beaucoup, beaucoup plus vieux avec ce personnage de Brice en vieillard.
Oui, le dispositif était malin.
Le film est très cynique, très malin. Il y a une espèce de culte de la vanne agressive qui
la vanne vaseuse,
m'est très sympathique. Mais le fait qu'il n'y ait pas de scénario, je vois pas le problème. Enfin, c'est vraiment une espèce de...
Non,
j'ai toujours défendu un cinéma qui se défait de la question du scénario. Donc, l'espèce de liberté narrative qui consiste à plutôt aller de vanne en vanne.
Entre liberté et vacuité, il y a quand même un monde, Jean-Marc. Tu seras d'accord avec moi.
Je pense qu'on peut imaginer un film qui ne raconte pas une histoire. C'est-à-dire que attaquer le film sur le fait qu'il n'y a pas de scénario, qu'il n'y a pas d'histoire, ça me semble un peu à côté
de la plaque. Le retour de Brice méritait mieux. Je veux dire,
oui, non, je suis d'accord pour dire que le premier était plus charmant que celui-là.
Tu aimes bien OSS,
après, je trouve pas ça atroce du tout.
Non, il y a une autre.
Oui, c'est une facture plus classique, mais je pense que Brice, que le premier
c'est juste une paresse absolue,
supérieur qu'à OSS.
Non, mais ton argument là, il est bidon.
Il y a une autre.
Pas du tout, c'est toi.
Tu peux pas le faire passer pour un vieux con parce que je demande un scénario. Mais non, mais c'est consternant.
Tu défends OSS parce que c'est plus narratif et que c'est plus classique dans sa facture narrative. Je suis désolé de.
Tu peux me dire, c'est génial, il n'y a pas de scénario.
Tu as le droit d'être attaché.
C'est pitoyable comme argument.
Au cinéma comme art narratif, mais ce n'est pas le seul modèle.
Je considère qu'on n'a pas. Le cinéma n'a pas besoin de scénario.
Mais je suis le premier à aimer un cinéma contemplatif, un cinéma qui effectivement se dédouane de ça.
Le premier, carrément.
Mais je vais dire, mais là, il n'y a rien. Il n'y a même pas de gag. Tes répliques Vachard, il y en a trois, je vais dire, tu peux t'endormir, tu n'en louperas aucune.
Pierrot.
Il y a un gag, c'est quand il tente, quand Brice, au début du film, tente de sortir d'un taxi avec sa planche. Oh. Oui, non. Oui, mais attends, il faut bien se raccrocher.
C'est pas un gag, ça.
Si, c'est un
gag.
C'est
une situation.
Oui, mais c'est un gag burlesque, classique, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas et puis il arrive comme ça. Bon, ça, c'est bien.
Si c'est bien, c'est vachement bien.
Ben, oui. Attends, il faut se raccrocher.
Ça n'a jamais été fait.
J'ai encore une centaine d'une 203.
Non, justement, mais je préfère qu'il imite, s'il peut et il peut pas, Buster Keaton, qu'il imite le premier épisode de Brice, tu vois.
Hein,
bon. Alors, la deuxième chose, c'est, ce qui est terrible, c'est que quand ils arrivent dans le parc d'attractions, comme vous dites, moi, ça m'a rappelé un film, des récents films de Beck BD. Vous trouvez pas? C'est sous hypnose, comme ça, enfin. C'est une espèce de laideur agressive. Oui, voilà, j'appelle ça comme je peux. Voilà. Non, mais c'est assez consternant. Voilà.
Brice.
Mais il y a des critiques à télé qui me disent s'encanailler, comme ça.
À côté de toi, Jean-Marc Lalanne adore.
C'est comme dans le film de Scola.
Je ne sais quoi de pataphysique.
Et encore, s'il y avait eu Chantal Goya dedans, il aurait été encore plus heureux, Jean-Marc.
Mais c'est du tu aimes t'encanailler en sachant que c'est nul, en sachant que c'est nul.
Oui, Brice de Nice, 3, James Hutt, des défenseurs dans le public de la salle Corto, non. Voyage à travers le cinéma français, le documentaire de Bertrand Tavernier, qui dure 3h15. Personnellement, je ne les ai pas sentis. C'est un voyage dans le temps qui court des années 30 aux années 70. Alors, c'est à peu près irrésumable parce que c'est plein d'extraits de films, d'interviews. On croise aussi bien Becker que Renoir, Duvivier que Melville, Chabrol, Godard, Truffaut, Gabin, qui se taille, il faut dire, la part du lion, Arletty, le compositeur Maurice Jobert, Jean-Paul Gaultier, ou encore Piccoli dans une scène incroyable imitant Claude Sautet en colère, et puis des inconnus, oubliés, en tout cas de moi, comme Edmond Tégréville, et en creux et en voix off, la voix donc de Tavernier, qui fut, je le rappelle, assistant et attaché de presse avant de devenir le cinéaste qu'on sait. Alors c'est pas un film théorique, c'est pas non plus une masterclass, c'est plutôt, en tout cas, selon moi, une anthologie. Une anthologie très personnelle, comme il y a des anthologies de poésie ou de littérature, Pierre.
Ah ben moi, je trouve ça vraiment très, très, très plaisant. Les 3 heures passent comme dans un rêve. En plus, il est malin, donc il sait passer de l'un à l'autre. Il réhabilite des gens comme Gréville et comme Jean Sacha. Enfin, pas tout Jean Sacha, mais un film de Jean Sacha avec Eddie Constantine. C'est brillant, drôle... amusant, passionnant. Je crois que les gens, j'ai entendu dire que ceux qui le voient en salle applaudissent à la fin tellement ils sont contents. Et donc voilà. Et en plus, bonne nouvelle pour ceux qui verront le film et l'aimeront, ils préparent une série de quelques épisodes. Donc j'ai eu la chance de voir l'épisode qu'ils consacrent
pour la télé
à Ophuls, De Coin et Grémillon. Et c'est encore plus beau que le film que vous allez voir.
Jean-Marc.
Il y a quelque chose qui est assez réussi dans le film, c'est que il fait très très bien passer l'absolue singularité de son voyage dans le cinéma français. Par exemple, c'est pas du tout le mien, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas du tout les mêmes goûts que lui. J'aime beaucoup Renoir, mais comme la plupart des cinéphiles, mais il y a des gens que j'adore dont il parle pas du tout, mais finalement c'est pas grave. Et j'attendais un peu le film là-dessus, et étant donné que c'est totalement guidé par son parcours à lui, à la fois ses émotions d'enfant puis d'adolescent, puis son parcours à l'intérieur du cinéma comme attaché de presse, puis comme assistant, du coup, c'est pas du tout gênant qu'on ne se reconnaisse pas dans sa vision du cinéma. Donc ça, c'est assez réussi, le côté histoire du cinéma vu d'une place singulière, qui est celle de Bertrand Tavernier. Et il y a des moments dans le film où effectivement il n'est pas du tout théoricien, c'est-à-dire qu'il ne cherche jamais une explication générale sur le cinéma, mais il y a une précision dans la description de ce que c'est de manière très pratique la mise en scène. Toute la partie sur Greville, ce cinéaste dont moi j'ai vu aucun film, c'est vraiment très très instructif et passionnant. Sur Baker, il y a vraiment des choses très très belles, la manière dont il étudie de façon extrêmement précise un cadre. On se dit que c'est vraiment un très bon prof de cinéma. Ma réserve quand même, c'est que je suis pas sûr que la forme du film de 3h15 soit la bonne forme. Et comme c'est très très chapitré,
de la longueur ou de la non.
Je pense que en série,
la construction.
Étant donné que de toute façon c'est quand même un peu une série de chapitres de 50 minutes sur Renoir, sur Becker, sur Gabin, j'ai l'impression qu'une forme feuilletonnante aurait peut-être été plus adéquate que cette forme là.
Daniel.
Moi je trouve ça vraiment émouvant parce que c'est les films de sa vie et sa vie dans les films, c'est-à-dire que c'est effectivement totalement personnel et qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au cinéaste qu'il décrit, il nous entraîne et il a le même respect pour tous les films, même les moins bons. Il dit pas que ce sont
même
toujours des chefs-d'œuvre.
Oui, même ceux qu'il aime moins.
Voilà, c'est Constantine, par exemple, c'est assez drôle.
Voilà, mais Marcel
Carmel.
Voilà, et en plus, bon, les extraits, c'est inouï de revoir la beauté des femmes, la beauté de Simone Signoret, d'Arletty, etc. Et ce qu'il fait très bien, mais sans didactisme, c'est de se décaler sur les artisans des films. Hein, quand il parle de Trauner et qu'il explique le jour se lève et comment l'immeuble a été surélevé pour que effectivement Gabin là-haut soit encore plus isolé de la foule d'en bas, tout à coup il nous révèle des choses de films qu'on a aimés et c'est un voyage grisant.
Xavier, je suis exactement de l'avis de Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est pas mon parcours de cinéphile, il manque plein de gens, ça m'agace à un moment, mais en même temps c'est passionnant ce qu'il nous raconte et la manière dont il nous fait rentrer dans son amour du cinéma, dans les films, avec des détails, avec des analyses, c'est absolument bouleversant. Je me serais bien abstenu des nombreuses séquences où il est filmé, qui, à mon avis, ralentissent un tout petit peu le film. Il s'aime beaucoup, il se met en scène, on a bien compris. Je pense que le même film, uniquement avec sa voix off, aurait gagné un tout petit peu.
Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier.
Une toute petite coda sort en même temps un double CD avec toutes les musiques des films. Et c'est magnifique, c'est édité par la SACEM.
Allez, donnez-nous plutôt de bonnes raisons de voir cette merveille qui est Ma vie de courgette. Premier long métrage d'animation version stop motion de Claude Barras, scénarisé par la cinéaste Céline Sciamma, d'après l'autobiographie d'une courgette de Gilles Paris, ou un garçon de 10 ans, Icar, qui a causé la mort de sa mère très violente et alcoolique, se retrouve dans un foyer où il va tomber amoureux de Camille. Alors c'est triste, mais c'est tellement émouvant et tellement juste, je trouve. Donnez-moi des bonnes raisons plutôt aux auditeurs d'aller voir Ma vie de courgette. Xavier.
C'est une merveille, c'est la justification de deux choses. D'abord que le cinéma d'animation, c'est du cinéma à part entière, que faire un film d'animation,
absolument,
c'est pas du cinéma par défaut, que chaque plan, que chaque idée de mise en scène, de montage, est une idée de cinéma et de cinéaste, et que Claude Barras en est un, et que ça justifie l'animation parce qu'il n'y a pas d'incarnation au sens... pas un gamin qui joue ce personnage-là, et que du coup, l'identification n'en est qu'optimisée. C'est-à-dire que tous les choix, j'allais dire du film, le stop-motion, le look des personnages, les couleurs qui sont utilisées, la ligne claire, le hors-champ sur la violence à la fois extérieure que subit ce gamin et intérieure qui est la sienne, convaincue d'avoir tué sa mère, sont portés justement par quelque chose de très beau, de très poétique, d'assez surréaliste. Les couleurs ne sont pas réalistes. Il a les cheveux bleus, il y a des... Et tout ça est une poésie qui non seulement n'est pas une frontière pour notre identification vive, mais une manière d'y rentrer, de s'y retrouver. Donc on est à la fois complètement à l'intérieur, complètement en empathie avec lui, grâce au travail de l'animation et grâce au travail de cinéaste. C'est un grand film tout court, j'ai même plus envie de dire d'animation, non, qui est au plus juste de son émotion et de son propos. C'est une merveille.
Mais qui garde en même temps, je trouve, son caractère artisanal.
Ah mais bien sûr,
on sent pas la grosse machine.
C'est un immense travail d'artisan.
Et ça ajoute à l'émotion, je trouve,
complètement.
Du film.
Et puis il y a des plans séquences, il y a un vraiment travail de réflexion sur ce qu'est la mise en scène.
Daniel.
Voilà comment des petites marionnettes aux gros yeux peuvent avoir autant de vérité, autant de sensibilité. On est avec ces mômes, c'est absolument incroyable. Alors c'est pas un miracle que ce soit Céline Sciamma qui ait participé au scénario.
Bande de filles.
Un tomboy, naissance des pieuvres, elle sait ce que c'est. Et donc un sujet tragique, des petits enfants maltraités dans un orphelinat qui est d'une justesse, d'espérance, de vie, d'amitié et d'élan vers la vie, c'est un petit miracle et il faut
c'était
voir
à la canne à la quinzaine.
À la quinzaine.
Jean-Marc.
En plus de tout ce qui a été dit et avec lequel je suis d'accord, je dirais que moi j'adore la musique du film.
Oui.
Il y a beaucoup de morceaux de rock alternatif des années 80, de rock industriel. C'est tout à fait inattendu dans un film destiné prioritairement au marché enfantin, et ça produit vraiment quelque chose de très beau dans le film, cet univers un peu sombre de rock indus des années 80.
Pierre.
Eh bien, juste une phrase pour dire, je vais répéter tout ce que vous avez dit, non mais ce qui est formidable, je trouve, c'est que tous ces gamins ont un passé qui est extrêmement sombre, et en même temps, c'est cette alternance entre ce qu'ils ont déjà vécu de noir et de sombre dans leur vie, et le bonheur et la fraternité qu'ils découvrent même dans cette institution. Parce que,
avec aussi de la cruauté, hein, parce que le bizutage de courgette est un peu...
Oui, hein, mais c'est, enfin, comme ça. Mais enfin, c'est pas, oui. C'est pas. Non,
on est plus proche de l'esprit décoriste que de...
Oui, c'est ça. Hein, et donc, il y a une sorte de générosité et de bonté et d'optimisme qui fait. Donc, c'est un film qui pourrait être absolument atroce et triste. Enfin, c'est pas Oliver Twist que justement de Dickens. Et ça arrive à être totalement beau, généreux et plein d'espoir jusqu'au dénouement.
Franchement, quand on a le choix entre Ma vie de courgette et Brise de Nice, même trois, et il faut pas hésiter. Le premier long métrage d'animation de Claude Barras. Allez, un conseil pour finir cette émission, Daniel.
Alors, c'est peut-être parisien, mais je voudrais faire un petit salut au dernier numéro de Pariscope qui est paru mercredi. Et voilà, nous nous sommes tant aimés et c'est le dernier numéro. Voilà, Pariscope.
C'était pas cher.
Forever. C'était pas cher. Il nous disait tout de ce qui se passait et voilà, il est mort.
On l'achetait déjà à l'époque de la 203 et de la 2 chevaux.
Oui, voilà. Nicole Garcia d'ailleurs le mettra dans les bonus de son film.
Oh là là, jusqu'à la fin de l'émission, il va réussir. Hein. Oh. Xavier, ton conseil malgré tout.
La rétrospective Jafar Panahi aussi à Beaubourg, toute l'œuvre de ce cinéaste iranien. Et deuxième conseil, la reprise de Bernanos, de Mouchette de Bernanos, mais évidemment mise en scène. Par l'immense. Oui, merci beaucoup. Merci.
Mon conseil, c'est un roman. Ça s'appelle L'homme cruel, c'est chez Grasset, dans lequel l'ancien patron de Cannes, Gilles Jacob, fait le portrait romancé de Seishu Hayakawa, le japonais d'Hollywood, qui, bien avant de jouer l'abominable colonel Saito du pont de la rivière Kwai, a été la star du muet. Et l'empereur, à sa manière d'Hollywood, d'où il était chassé par le racisme anti-japonais. Et en France, il a tourné avec tous ceux qu'aiment Tavernier, avec Max Ophuls, avec Marcel L'Herbier, avec d'autres. Et puis il a fini ses jours dans un monastère bouddhiste, ce que fera peut-être un jour Pierre Murat.
Oui. Il est mort, je ne sais pas.
Tokyo en 73. Beau portrait romancé, tu l'as lu aussi, je crois, Daniel.
Tout à fait. C'est délectable.
De ce Seishu par Gilles Jacob, et ça s'appelle Un homme cruel, et c'est chez Grasset. Le conseil de Jean-Marc.
Apnée, le premier long métrage de Jean-Christophe Meurice, qui vient du théâtre, qui était le leader des Chiens de Navarre, qui ont fait les spectacles les plus joyeux et corrosifs qu'on ait vus sur scène ces dernières années. Là, c'est son premier film. C'est un univers qui est proche du Bertrand Blier des années 70. C'est vraiment très original et très intéressant.
Le conseil de Pierre.
J'ai parlé tout à l'heure de l'entente absolument magnifique et miraculeuse qui avait lieu entre Nicole Garcia et Marion Cotillard dans Mal de Pierre. Eh bien voilà, il y a une autre entente tout aussi miraculeuse entre une réalisatrice iranienne et la petite interprète qu'elle a trouvée. Le film s'appelle Sonita, la réalisatrice s'appelle Roxare Ghaem Maghebni, et c'est l'histoire justement de cette réalisatrice qui va faire un film sur la condition des femmes et qui tombe sur cette adolescente qu'on veut marier de force. Et elle s'échange presque la caméra, c'est-à-dire que l'actrice devient réalisatrice. Enfin, et c'est d'une sensibilité et d'une force tout à fait étonnante.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane. C'est là, mais ce soir... Salle Cortot, il y avait à la technique Pierre Bornard, Adrien Gaza, Stéphane Touvenin, Jean-Michel Bernot, Sébastien Huel, Patrick Muller, chargé de production Sandrine Bréchaud, réalisation Didier Lagarde.
Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 3 novembre, où je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre à la littérature. On parlera de théâtre dans une semaine. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.